Bonjour, nous nous retrouvons sur Radio Grenouille, comme le deuxième samedi de chaque mois de 11h à midi, pour l'émission Le Petit Altin en radio, une émission mensuelle proposée par Attaque Marseille. Attaque est un mouvement d'éducation populaire tourné vers l'action, qui cherche à analyser notre monde, à être une force de proposition pour dessiner les contours d'autres mondes possibles. Je suis Christian. Pour présenter cette émission et interviewer nos invités, je passe la parole à Benoît.
Bonjour Christian, bonjour à tous. Aujourd'hui, une émission autour des banques et de la finance. Faisons le point après la crise. Une émission au sujet passionnant mais vaste que nous aborderons d'abord en disant que dans l'actualité, nous entendons parler de déficit public, d'ajustement, de faiblesse des finances publiques. C'est bien le signe que la crise n'est pas finie et que ses conséquences se font toujours sentir. Ce sont ces conséquences que nous analyserons dans une première partie de l'émission, aussi bien du point de vue de l'économie, de la société, que des conséquences environnementales. Dans un deuxième temps, nous passerons en revue les actions que proposent les cercles dirigeants et les institutions internationales. Quelles sont ces propositions, et quels effets en attendre, surtout. Dans un troisième temps, nous verrons quelles sont les propositions avancées par Attaque pour définir un monde plus juste. Voilà, pour discuter de tout cela, aujourd'hui avec nous, Denis Durand de la CGT Banque de France et membre du Conseil national de l'information statistique qui représente les associations professionnelles et Christian Garnier d'Attaque Marseille. Christian Garnier, bonjour.
Bonjour.
Je me tourne tout d'abord vers Denis Durand. Denis Durand, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes au téléphone depuis Paris. Nous remercions de votre disponibilité. Et ma première question donc s'adresse à vous, puisque on va chercher tout d'abord à décrire quelle a été la crise de 2008 et quels sont les mécanismes qui mènent jusqu'à la situation actuelle où on entend donc beaucoup parler de déficit public, d'ajustement des politiques financières nationales, etc. Alors, la crise de 2008 vient d'un effondrement du système du crédit immobilier américain. Par quel mécanisme est-ce qu'on en arrive à la situation actuelle où on pointe du doigt les conduites financières nationales?
Alors, le déclencheur de la crise était en effet ce qu'on a appelé la crise des subprimes, c'est-à-dire l'effondrement d'un marché sur lequel le jeu consistait à spéculer sur des titres, autrefois c'était des bouts de papier, maintenant c'est des enregistrements dans les ordinateurs, qui représentaient des crédits immobiliers à des ménages américains. Et en gros, quand le prix du mètre carré montait, eh bien, le marché montait et tout le monde gagnait de l'argent. Et puis un jour, vers l'année 2005-2006, le marché, il n'a pas baissé, mais tout simplement, il a arrêté de monter. Et à ce moment-là, tous les spéculateurs qui avaient fondé des opérations sur une espérance de poursuite de la hausse du marché se sont retrouvés en difficulté parce que ils devaient de l'argent à des banques. Le point clé, je crois, le mécanisme clé de toutes ces opérations, c'est que qu'il s'agisse de cette spéculation sur les crédits immobiliers ou de tout autre type de spéculation, les spéculateurs travaillent toujours en partie avec leur argent, mais surtout, pour une partie beaucoup plus grosse, avec de l'argent qu'ils ont emprunté aux banques.
Et c'est donc à partir de là que s'est propagée cette crise qui finalement était assez localisée sur des titres immobiliers ou des assurances de crédit, etc., vers plus largement la finance internationale et quelque part par le biais du rattrapage public aussi aux finances publiques.
Exactement, c'est-à-dire que d'ailleurs la première institution qui a déclenché ce qu'on a appelé la crise des subprimes en août 2007 était une grande banque internationale bien connue puisque c'était BNP Paribas, qui a été la première à dire qu'elle arrêtait les opérations de spéculation sur les prêts immobiliers aux ménages américains. Et comme toutes les banques se doivent de l'argent les unes aux autres, la crise s'est propagée quasi instantanément à l'ensemble du système financier mondial, en tout cas toutes les banques occidentales, États-Unis, Europe, et ça a débouché au bout d'un an sur une série de catastrophes, dont la plus grave a été la faillite de Lehman Brothers, une des cinq grandes banques de marché de Wall Street, Mais au même moment, on a assisté à la quasi-faillite des deux grosses institutions semi-publiques de refinancement des crédits immobiliers américaines, baptisées Freddie Mac et Fannie Mae. On a assisté à l'effondrement, la faillite a été évitée de justesse, de la plus grosse compagnie d'assurance du monde, AIG, et on a assisté en réalité à la quasi-disparition des grandes banques de marché de Wall Street, puisque soit elles ont fait faillite comme Lehman, soit elles ont été rachetées par des organismes plus, disons, des banques à activité plus générale, comme Merrill Lynch, ou elles ont changé de statut pour devenir des banques ordinaires. Donc le système a vraiment été bouleversé, il a été au bord du gouffre pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, à la fin de l'année 2008, et donc l'histoire continue, c'est-à-dire que pour sauver le système financier de l'effondrement total, il a fallu que les États et les banques centrales mettent en œuvre des moyens absolument sans commune mesure avec tout ce qu'on avait connu dans l'histoire jusqu'à présent.
Et oui, puisque c'était tous les constats dont vous avez fait la liste ont créé une espèce de grande panique. Et donc les institutions publiques sont senties obligées de venir au chevet du système et de le renflouer financièrement et donc d'engager des sommes importantes pour le tenir à flot.
Exactement. Alors ça a pris deux formes principales. Des mesures de soutien aux banques qui ont pris des formes éventuellement diverses d'un pays à l'autre. En Grande-Bretagne, la situation était tellement grave qu'il a fallu procéder carrément à la nationalisation de la plupart des grandes banques. Aux États-Unis, ça a été le plan Paulson qui mélangeait un ensemble de mesures de garantie, de prêts, d'aides publiques sur des montants considérables qui ont permis en effet à la plupart des banques, sauf Lehman et sauf pas mal de petites banques dont on parle moins, de provinces qui ont fait faillite aussi, mais les plus grosses ont réussi à passer le cap et aujourd'hui on voit qu'elles refont des bénéfices énormes. Et en France, on sait qu'il y a eu une série de mesures qui ont été prises, 320 milliards de garanties proposées par l'État aux banques pour leurs prêts, compromis aux entreprises, et 40 milliards proposés, en réalité 20 milliards seulement ont été utilisés, de prise de participation dans le capital des banques par l'État.
Alors, maintenant, pardon.
Ce que je trouve ubuesque, c'est que les États, pour financer tous ces plans, ont été obligés de faire du déficit budgétaire et d'emprunter sur les marchés. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ont emprunté aux banques qui étaient en péril pour pouvoir financer leur politique. Est-ce que c'est ce mécanisme-là ou est-ce qu'il y a un autre mécanisme qui a été mis en place ?
Non, c'est bien ça. Les États ont donc avancé beaucoup d'argent. Il faut rajouter aussi les plans de relance, qui ont été considérables dans des pays comme les États-Unis ou la Chine, un peu plus modestes dans la zone euro, mais on se souvient, les primes à la casse pour l'automobile, les subventions pour le chômage partiel, etc. Donc ça représentait aussi beaucoup d'argent et dépensé par les États. Donc effectivement, d'où vient cet argent ? Eh bien, en réalité, les États ne l'ont pas pris dans la poche de quelqu'un, ils l'ont emprunté. Emprunté sur les marchés, en effet. Et aux compagnies d'assurance, aux fonds de pension, etc.
Cela nous amène donc à l'actualité, puisqu'on entend claironner maintenant un petit peu partout que la crise est derrière nous, la croissance est de retour, etc. Mais en parallèle de ça, on voit arriver des remarques de la part des analystes financiers, etc., sur les comptes publics qui sont dits appauvris. Et quel est le lien entre cette actualité internationale et l'étape précédente qui est le renflouement de la finance internationale par les finances publiques ?
Alors oui, donc déjà moi je partage complètement la stupéfaction et l'indignation de Christian sur ce comportement des marchés qui commence par appeler au secours, sauvez-nous sinon le monde va s'effondrer, ce qui n'était pas complètement faux d'ailleurs, donc qui obtiennent des soutiens sous forme de fonds publics absolument gigantesques de la part des États et des banques centrales, et une fois que tout ça est fait et que les États sont bien endettés, les mêmes marchés se retournent vers les États en disant mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez fait des bêtises, c'est scandaleux, vous avez des comptes à rendre, et maintenant on va spéculer maintenant, et évidemment la grande spéculation aujourd'hui, c'est la spéculation sur les titres d'État. On a vu comment elle s'est déchaînée contre la Grèce et comment elle risque de se déchaîner contre d'autres pays dans les mois et dans les années à venir.
Christian Garnier de Attaque Marseille, vous voulez intervenir ?
Oui, parce que dans la question qui était au départ, comment on est passé de cette situation qui est une crise immobilière et de bulle de crédit aux États-Unis à un effondrement complet de l'économie, c'est quand même, il faut, j'allais dire, un peu creuser, parce qu'il y a eu d'autres crises financières. On se rappelle la crise qui a eu lieu au moment de, en 98, la crise financière dans les pays asiatiques. Il y a eu la crise des technologies, de nouvelles technologies en 2001, et ça n'a pas provoqué de crise de cette ampleur. Ce qui est nouveau ici, c'est que c'est une crise financière qui a atteint l'ensemble du système. C'est une crise qui s'est propagée de l'immobilier aux finances, aux banques, et même à la bourse, puisque c'est lié à l'interconnexion des marchés. Hein. Et donc, c'est quand même une crise qui, ce coup-ci, révèle son caractère systémique, parce que cette crise économique d'aujourd'hui, elle est à la fois la conséquence de la crise de 2007-2008, et en même temps, elle est couvée depuis longtemps. Elle était reportée. Elle était justement reportée par l'injection massive de capitaux, qui peut nous faire dire qu'aujourd'hui, bien, on a une fois de plus proposé des liquidités, parce que c'est une crise des liquidités, on a injecté des masses financières, mais ce n'est que reporté pour, j'allais dire, mieux repartir dans de nouvelles bulles. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que on est dans une situation qui est fondamentalement instable parce que on a livré l'économie au pouvoir de la finance, c'est-à-dire pendant longtemps, avant que le néolibéralisme s'installe, la finance avait un rôle, mais il était subordonné. Alors que là aujourd'hui, c'est l'impact complètement essentiel de la finance qui fait que cette crise est beaucoup plus grave et qu'elle est, d'un certain point de vue, systémique.
Alors oui, cette crise systémique, donc à l'heure actuelle, s'exprime par la faiblesse du pouvoir de financement public, donc des États, des nations. Cette faiblesse-là, Denis Durand, cette faiblesse-là, elle vient du fait que à un moment, les États ont dû s'endetter pour venir au chevet de la finance internationale, mais aussi et peut-être même surtout du fait que à cause de cette crise. Et pour pouvoir relancer l'économie internationale, les États ont dû diminuer leurs rentrées, leurs recettes, pour donner de l'air à l'économie internationale. Tout ça dans la doxa néolibérale, tout ça dans un cadre conceptuel assez clair depuis quelques années.
Ah mais je pense que oui, alors c'est très important ce que disait Christian à l'instant, parce que en effet, on est dans une phase de difficultés durables de la croissance économique et du fonctionnement de l'économie en général dans le monde capitaliste depuis longtemps. Depuis la fin des années 60, la fin des 30 glorieuses, on a vu en quelque sorte se détraquer la machine qui avait produit la brillante expansion qui avait suivi la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était arrivé à un tel degré à la fin des années 70 que tout allait mal. Les récessions étaient fréquentes et profondes. Le système monétaire international était complètement disloqué puisque on était passé du système de Bretton Woods à un système de flottement général des monnaies entre 71 et 76. Les États-Unis étaient attaqués de toutes parts, le dollar était en chute libre. Et donc, on peut dater de très précisément la période à laquelle le choix a été fait de renverser le sens des politiques économiques suivies depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et de passer, en effet, à des politiques qui ont donné, en quelque sorte, le pouvoir aux marchés financiers. C'était des mesures de politique économique qui ont été prises aux États-Unis en octobre 1979, qui ont conduit à monter les taux d'intérêt, qui ont provoqué une libéralisation de la sphère financière aux États-Unis d'abord, en Grande-Bretagne quasiment à la même époque, c'était à l'époque de Margaret Thatcher. En France, on a résisté jusqu'en 83 et ensuite on a plongé dans la libéralisation du système financier aussi. C'est à ce moment-là que la fameuse perte de entre 5 et 10 points de valeur ajoutée des salaires au profit des revenus financiers s'est produite. C'était à cette époque-là que ça s'est passé, etc., etc. Et aujourd'hui, alors le problème, c'est que ceci, ça a été formidable pour remonter les profits des multinationales et des banques. Mais ça a aussi provoqué, on le sait bien, hélas, une explosion des choix de gestion dans les entreprises qui ont provoqué une explosion de la précarité de l'emploi, l'appauvrissement des salariés, l'augmentation du chômage de masse, et ça provoque des crises. Et effectivement, la crise que nous vivons aujourd'hui, la crise financière de 2007-2008, elle fait suite à d'autres épisodes moins graves, mais cette fois-ci c'était tellement grave qu'une récession s'est déclenchée aussitôt après.
Et c'est donc la crise actuelle, en quelque sorte, est le résultat de politiques menées depuis maintenant au moins deux décennies, et elle devrait être l'occasion de la remettre en question. Or, qu'est-ce qu'on constate ? On voit que à l'occasion de cette crise-là, on cherche encore plus à approfondir le système en envoyant des injonctions aux économies nationales de les libéraliser encore plus. C'est assez paradoxal, finalement.
Ah oui, c'est. Alors, on se retrouve effectivement avec la campagne aujourd'hui d'intimidation qui est menée autour des déficits publics, alors qui prend des formes absolument dramatiques dans des pays particulièrement touchés par la crise comme la Grèce ou l'Irlande, où on en est à diminuer les salaires des gens. Non seulement le chômage a explosé, mais on en est là. On n'en est pas encore là en France, mais on voit bien aussi le chantage qui est fait sur les retraites, sur la politique économique en général. Et il s'appuie, alors c'est absolument extraordinaire ce cynisme-là, mais c'est effectivement les efforts déployés par les États pour faire face, et pour colmater les brèches du système qui était en train de s'effondrer, servent aujourd'hui de prétexte pour aller encore plus loin dans le démantèlement des institutions sociales et en réalité la précarisation accrue du travail. C'est vrai.
Et oui.
C'est vrai.
Et donc tout ça m'amène à en fait, ça nous amène à parler des impacts de cette crise sur le social, sur l'aspect social des choses de notre vie. Et là-dessus, Christian Garnier, vous aviez un petit peu à dire.
Oui, justement. Bon, disons que cette crise financière s'est propagée à l'économie, puisque bon, il y a eu ce qu'on appelle un crédit crunch, c'est-à-dire un resserrement du crédit. Il n'y avait plus de liquidité, il n'y a plus d'argent qui fait que ça a mis en difficulté de nombreuses entreprises qui vivent bien souvent avec des avances de trésorerie. Bon, donc on a vu une chute très brutale de la production. Avec dans beaucoup d'États, des mesures ont été prises pour maintenir malgré tout l'emploi. Disons, en Allemagne, ils ont fait c'était le chômage partiel. Un petit peu aussi en France. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus brutal. Hein, on a eu une chute de l'emploi de manière très importante. Alors que il faut savoir qu'aux États-Unis, le plein emploi est une donnée depuis la crise de 1929. C'était un des objectifs de la Fed. De maintenir le plein emploi, à la différence de la BCE en Europe. Mais donc, on voit une crise très forte, avec des millions et des millions de chômeurs. Ensuite, les gouvernements ont essayé de venir en aide, relancer l'économie. On le voit, tu as parlé tout à l'heure des plans d'aide à l'immobilier, ce qui était un peu stupide, puisque c'était une crise immobilière et que ça ne faisait pas relancer, mais enfin, il fallait sauver quelques entreprises. Et puis, pareillement, une aide aux entreprises automobiles, alors qu'il y a un marché qui est en surproduction notoire. Donc on a aidé parce que il fallait à tout prix essayer de sauver l'activité économique, parce que on a parlé des déficits publics. Alors les déficits publics sont évidents, ils ont deux raisons. Ils ont une raison qui est le fait qu'on a il y a eu des aides directes, mais il y a aussi le fait que l'activité économique s'effondrant, les recettes. Automatiquement, les recettes des entreprises ont baissé et ça a creusé donc les déficits par un défaut de recettes. Ce qu'il y a eu aussi, c'est que cet effondrement, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est traduit par un effondrement du commerce international. Il y a on a eu peur à un moment donné d'un retour au protectionnisme. Bon, on n'a pas eu le protectionnisme des années 30 où chacun a essayé de résoudre la crise avec en dévaluant ses monnaies. De manière officielle, mais ça reste quand même dans les tuyaux, puisque cette question du protectionnisme y est toujours. Alors pour revenir donc sur la crise économique rapidement, donc des millions de chômeurs, on parlait aussi de crise climatique, au sens où à ce moment-là les États n'ont eu qu'une chose, c'est relancer la croissance, et de manière pragmatique pour eux la croissance c'était continuer ce qui se faisait auparavant, donc on a laissé de côté, on a abandonné dans certains endroits tous les projets qui avaient été mûris depuis un ou deux ans, depuis le rapport du GIEC, sur développer des investissements dans le développement durable, dans l'écologie, etc. Tout ça, on le voit bien, c'est résumé, d'ailleurs Sarkozy l'a dit, maintenant ça suffi. Enfin, avec l'écologie, on l'a bien vu, hein, par rapport aux paysans, c'est toujours du court-termisme, il faut rapidement sauver les meubles. Donc ça a renforcé cette crise-là, ça a renforcé la crise écologique. Donc c'est de ce point de vue que c'est une crise globale, hein, du système. Et alors je voudrais donc finir, hein, c'est, disons que c'est le gros problème des marchés, on va y venir à la deuxième partie, c'est les dettes publiques. Mais le point aveugle du marché et de la doxa libérale, c'est l'endettement privé, où on s'aperçoit, tu as cité tout à l'heure l'Irlande, l'Espagne ou d'autres pays, hein, parce qu'il n'y a pas que là, hein, on a vu des pays de les PECO par exemple, en Hongrie ou d'autres pays, ou les pays baltes, ils étaient souvent cités en exemple parce que ça marchait bien, ça marchait le feu de Dieu, il y avait une croissance pratiquement à deux chiffres, et puis, bon, pas pour l'Espagne mais pour d'autres pays, mais on sous-estimait, les marchés sous-estimaient, c'est le point aveugle de la théorie, l'endettement privé. Or cet endettement privé était colossal. Donc aujourd'hui, évidemment, ça se révèle au grand jour, puisque cet endettement privé a été plus ou moins transformé en endettement public.
Voilà. Alors on entend beaucoup parler de dette aujourd'hui. Voilà, dans cette première partie, nous avons exposé le mécanisme de la crise et ses conséquences. Dans une deuxième partie, après une petite pause musicale, nous allons parler justement des mesures proposées pour faire face à cet endettement. Un petit peu de musique.
Si j'avais fait des bonnes études de langue française, comme Cédar Senghor, je saurais peut-être. Si je savais parler français comme Aimé Césaire, je saurais peut-être l'explication du mot conjoncture.
Conjoncture, conjoncture, crise économique, c'est la sécheresse des banques.
Si je pouvais devenir un jour grand économiste, comme Monsieur Jacques Delors ou Monsieur Raymond Barre, je chercherais la solution pour stopper cette crise. Vraiment mes amis, mais je n'y peux rien.
Conjoncture, conjoncture, crise économique, c'est la sécheresse des banques.
Si je pouvais parler au peuple et le convaincre, comme François Mitterrand ou Félix Houphouët-Boigny, je m'en irais dans tous les pays du monde entier et leur expliquer que la crise n'est pas éternelle.
Conjoncture, conjoncture, crise économique, c'est la sécheresse des banques.
Bien, de retour sur le Petit Alter Radio, sur les ondes de Grenouille. Nous parlons des banques et de la finance. Faisons le point après la crise. Alors, dans la première partie, on a beaucoup entendu parler de dettes, dettes publiques, dettes privées, endettement. Pour faire face à toutes ces dettes, les institutions financières internationales et les cercles dirigeants, tout le monde a des propositions. Alors, on entend des choses diverses et variées. Denis Durand, là-dessus, on a entendu Obama parler d'une taxe, on a parlé de, pourquoi pas, de taxation des transactions. Qu'est-ce que, globalement, comment s'articule la réponse institutionnelle à cette crise ?
Alors d'un côté, donc ça, on peut aller rapidement parce qu'on en a déjà parlé, les gouvernements ont bien compris qu'il n'était pas possible de retirer immédiatement les mesures de soutien à l'activité, sous peine de replonger dans la récession. Ensuite, il y a un certain nombre de mesures qui visent dans les différents pays à resserrer un peu les contrôles qui sont exercés sur l'activité des banques et des autres institutions financières. On renforce un petit peu le rôle des banques centrales dans la surveillance des banques. On met en place, après le rapport de la Rosière, un dispositif de coordination de la surveillance des banques et des assurances au niveau européen. Aux États-Unis, une réforme de même nature est en cours d'examen. Ensuite, il y a des mesures qui visent à frapper un peu plus dur sur les comportements spéculatifs des institutions financières. Alors ça passe par la préparation d'un renforcement des normes internationales qui encadrent en quelque sorte l'activité de crédit des banques. Il y a des divergences entre les États-Unis et l'Europe sur ces différents sujets. Et puis, ensuite, il y a des choses qui vont... On évoque la possibilité d'instaurer des taxations sur les transactions financières, mais c'est souvent... Alors, évidemment, à ATTAC, on connaît bien cette problématique, puisque c'est même le point de départ de toute l'histoire de cette organisation. En même temps, on voit bien que ce type de mesure peut être vu de façon très différente. C'est-à-dire, ça peut être une façon, en effet, en quelque sorte, de réprimer la finance et de faire reculer le poids de la finance dans l'économie. Ça peut être aussi, et ça, on a des théoriciens, disons, non pas ultra-libéraux, mais sociolibéraux, qui défendent l'idée qu'il faut un petit peu de mettre un petit peu de sable dans la machine pour éviter qu'elle s'emballe, mais c'est pour défendre la machine, c'est surtout pas pour en changer. Et puis je n'ai même pas évoqué, parce que on voit bien qu'il y a beaucoup de communication autour de ça et pas beaucoup de contenu derrière, des mesures un peu plus spectaculaires qui ont été beaucoup discutées au G20 sur la taxation des bonus ou la limitation des bonus ou la lutte contre les paradis fiscaux. Bon, bien sûr, tout ça dans un paysage, c'est un rôle à jouer, mais l'essentiel, on voit bien, c'est comment on peut essayer de contrôler la contribution que les banques, avec leur pouvoir de création monétaire, apportent aujourd'hui à l'inflation financière, alors qu'elles devraient au contraire contribuer à favoriser les investissements qui créent des emplois et sont de nature à favoriser un nouveau type de croissance respectueux de l'environnement.
Christian Garnier, sur les réponses des institutions.
Oui, le problème des réponses des institutions sont toujours dans un cadre qui est évidemment un cadre qui est tout à fait contestable pour ATTAC, parce que le cadre c'est le cadre néolibéral, c'est-à-dire les marchés sont autorégulateurs, c'est-à-dire ils considèrent que les marchés financiers sont efficients et pour l'allocation des ressources, ils sont voilà. Or, nous contestons profondément, ça c'est une question d'analyse, d'ATTAC, mais ça ne peut pas marcher, parce que quand vous êtes sur les marchés, j'allais dire, les bulles spéculatives font partie de l'activité financière. Parce que quand vous avez des actifs qui montent, on le voit sur l'immobilier, eh bien ça attire de nouveaux intervenants sur les marchés qui eux-mêmes font monter les prix, etc. Et la seule façon, c'est le seul fonctionnement des marchés financiers, c'est la montée des bulles et les crashs. C'est ça. Et comme la finance prend de plus en plus d'importance, aujourd'hui le crash, c'est plus qu'une bulle qui crève, c'est l'ensemble du système. Donc on le voit bien, il ne s'agit pas de moraliser ou voire réguler pour les meilleurs réformateurs. Donc on peut discuter des mesures. Alors il y a une gouvernance, on peut la saluer, on est passé du G7 au G20, ça reste quand même toujours le même cadre, même si c'est ouvert à d'autres pays qui jusqu'à présent n'étaient pas à la tête d'espèces d'aréopage qui dirige le monde. On a intégré un peu les Chinois, puisque les Chinois, ils sont quand même avec les fonds souverains. Le fait qu'ils gardent des dollars en réserve ajoute d'ailleurs à l'instabilité financière, parce que ça donne de la liquidité encore dans le marché. Mais on voit bien que les mesures qui sont prises sont des mesures cosmétiques qui ne changeront rien. La preuve, c'est que sur les paradis fiscaux, on voit bien que les mesures, en ce moment, les États sont impécunieux. Ils essaient de récupérer des recettes, donc les recettes fiscales. Donc on va certainement être plus strict sur l'imposition. Enfin, on va retirer un peu, on va taxer un petit peu les entreprises qui vont se réfugier dans les paradis fiscaux. Mais par contre, ça change rien sur l'opacité, sur le fait qu'on ne sait pas quels sont les bilans réels des banques parce qu'elles ont des filiales qui sont couvertes. Voilà, donc ces mesures-là sont des mesures, au mieux de régulation ponctuelle, mais elles changeront rien. Les agences de notation, c'est pareil. On a beaucoup critiqué les agences de notation en disant il faut, parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Bien sûr, les agences de notation ont souvent intérêt à donner des notations qui satisfont leurs clients, c'est-à-dire les banques, puisque c'est elles qui les payent. Mais même si c'était un organisme un peu séparé, reste que c'est l'ensemble du marché qui pousse à justement. D'un point de vue rationnel, les notations des banques, des agences, ce n'était pas complètement absurde, puisque chaque année, ça montait un peu plus, avec les normes comptables. On a des normes comptables qui évaluent les actifs en fonction des évolutions des cours boursiers. On voit bien que plus ça monte, plus... voilà. Donc, quelqu'un... Il n'y a plus de rationalité. Enfin, ici, il y a une rationalité individuelle, mais il n'y a plus de rationalité de système. Donc, c'est le système lui-même qu'il faut casser. Donc, nous, on y reviendra tout à l'heure, mais disons que les mesures qui sont proposées encore là-dessus, Christian le disait tout à l'heure, il y a divergence entre les États-Unis et l'Europe. L'Europe étant un peu plus régulatrice et les États-Unis un peu moins. Les mesures prises par Obama, par contre, ils vont taxer les banques. Les grosses banques interviennent sur le marché américain à 0,15%. Ils veulent créer un fonds de réserve pour éviter ce qu'ils ont eu avec la faillite de Lehman Brothers, qui a un peu été le point déclencheur. Mais ça aura un effet pervers, c'est-à-dire que si les banques se sentent avec un soutien d'un fonds de réserve, elles prendront encore plus de risques. Or, c'est ça qu'il faut casser, c'est ce poids de la finance, cette interconnexion des marchés divers financiers, dont on a vu la nocivité tout à l'heure.
Oui, j'avais une remarque plus terre à terre, c'est la culpabilisation que l'on fait du citoyen moyen, quoi. C'est-à-dire qu'on va essayer de sauvegarder, de protéger des soi-disant niches fiscales, c'est-à-dire qu'on va pénaliser le citoyen moyen en essayant de gratter, il n'y a pas d'autre mot, de gratter un petit peu d'argent de ci, de là, pour faire comprendre à la population qu'elle doit économiser, qu'elle doit faire attention à ne pas trop dépenser, mais je veux dire, c'est de la poudre aux yeux par rapport aux sommes monétaires qui sont engagées, quoi. J'ai pas l'impression du tout que ça culpabilise le citoyen, mais ça ne répond pas du tout au problème de fond qui est posé par ce problème bancaire.
Oui, alors comme citoyen, on en vient à se demander s'il ne serait pas raisonnable de créer une sorte de haute autorité de régulation financière, ou puisqu'on en est dans les réponses institutionnelles, une institution qui assez largement englobe et régule les excès de la finance. Denis Durand, est-ce que cette idée est dans l'air du temps, je veux dire, dans les grands cercles dirigeants ?
Alors oui, mais je pense qu'il y a deux choses dans cette affaire-là. Il y a, je pense, à mon avis, un vrai besoin, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de coopération internationale en matière financière, en matière monétaire. C'est évoqué, il y a aujourd'hui une guerre des monnaies et des pressions, des bras de fer entre les États-Unis, la Chine et la zone euro, hein, parce que il y a des mouvements de monnaie qui sont plus ou moins pilotés par les États-Unis, qui jouent le rôle principal, puisque le dollar est au centre du système monétaire international. La réponse des pays asiatiques, la Chine, le Japon, qui s'opposent en quelque sorte à une baisse du dollar qu'ils ne pourraient pas contrôler, et un ajustement qui se fait sur l'euro, qui a eu tendance à monter. Bon, là, après, on est maintenant dans une phase spéculative où l'euro a un peu baissé, mais on a un désordre monétaire international qui est un des facteurs de la crise. Donc je crois que le besoin d'arriver à une autre forme d'organisation de l'économie mondiale avec d'autres normes de régulation et d'autres institutions, en tout cas en transformant profondément les institutions existantes au minimum, est posé. L'autre aspect du problème, c'est que on a bien l'intuition que même si on arrivait à faire ça, ça ne suffirait pas. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de décisions qui se prennent à chaque instant, dans les salles de marché, dans les conseils d'administration des banques, dans les réseaux des banques. Lorsqu'un banquier de base décide de prêter ou de ne pas prêter à une PME, c'est une question de vie ou de mort pour l'entreprise concernée. Et des décisions qui se prennent tous les jours dans les entreprises, qui continuent d'être guidées, comme on le disait tout à l'heure, par le critère de la recherche de la rentabilité. Et ça, ces critères de rentabilité maximale, ils sont profondément contradictoires avec les exigences sociales, puisqu'elles conduisent à provoquer des catastrophes sur l'emploi, sur les salaires, sur la précarité, sur la montée de la pauvreté et des inégalités. Et on s'aperçoit de plus en plus que ces critères de rentabilité sont aussi profondément contradictoires avec les exigences de préservation de l'environnement et d'une organisation pas seulement écologique, mais politique, sociale de la planète, qui puisse en effet permettre une forme de développement où tout le monde puisse s'assurer un avenir de façon coopérative. Là, il y a vraiment à la fois un besoin en effet de de coopération internationale, mais pas seulement. Il faut aussi d'autres pouvoirs et d'autres critères dans les entreprises, dans les banques, dans les États, au niveau des régions. Il y a un vaste programme qui pourrait être développé sur ce terrain-là.
Christian Garnier ?
Oui, justement, sur les critères et tout, bon, parce que dans les mesures qui ont été prises, justement, on peut parler du durcissement des règles prudentielles. Hein, rapidement, pour les auditeurs, c'est-à-dire qu'il existe à l'échelle internationale, contrôlé par la Banque des règlements internationaux, qui contrôle bon, les banques, les risques pris par les banques, c'est le fait d'avoir des fonds propres en quantité suffisante pour permettre justement quand il y a des problèmes. Alors, les banques ont contourné ces règles prudentielles et de toute façon, on peut penser que c'est pas parce qu'on va en mettre d'autres plus dures qu'elles seront pas contournées. Là, par exemple, la BRI ne contrôlait plus les banques elles-mêmes parce qu'elle considérait que les logiciels qui avaient été mis au point par des banques, hein, je crois que c'est Morgan qui avait fait ça, donc des logiciels qui garantissaient contre les risques. Ce qui est là, la théorie là, nié, a dit que ça n'existerait pas. Il ne pouvait plus avoir de crise financière. Donc c'est bien là, ça montre bien que dans n'importe quelle théorie qui se veut scientifique, à partir du moment où il arrive un phénomène comme ça, on prend la théorie, on la jette par-dessus bord. C'est pas ce qui se fait. Ce qui montre bien que nous avons affaire à une crise systémique, et c'est pas les ravaudages qui ont été pris, même si ils sont pas inutiles. On est aujourd'hui dans les mesures, il faut savoir qu'on prend des mesures qui sont moindres que les mesures qui avaient été prises au lendemain de la crise de 1929. Donc, les sommes aujourd'hui engagées sont plus importantes. La mondialisation est plus importante qu'en 1929. En 1929, le marché chinois, le marché indien, tout ça, il n'existait pas. Donc, aujourd'hui, les risques sont encore bien plus importants. Alors, on a modifié les ratios prudentiels. Mais ça reste toujours les banques qui elles-mêmes vont s'auto-réguler. C'est le principe de l'auto-régulation qui est vraiment qu'il faut combattre. Or là-dessus, c'est le cœur de la théorie. Il y aura rien de changé.
On parle de ces excès. Vous parliez tout à l'heure, Denis Durand, de ce consensus général, comme quoi il faudrait changer quelque chose. Mais est-ce qu'il y a une seule action, je ne sais pas, au niveau institutionnel, international, Denis Durand, une seule action qui sur laquelle tout le monde serait d'accord et qu'on pourrait mettre en œuvre ?
Je crois que pour que tout le monde soit d'accord, il faudrait qu'il n'y ait pas des intérêts radicalement opposés. Je pense par exemple que les États-Unis s'opposeront avec toute l'énergie qui sera en leur pouvoir à toute mesure qui tendrait à réduire le rôle centrale, hégémonique du dollar et de la politique monétaire américaine dans la régulation de la planète financière et monétaire. On l'a bien vu au G20 d'avril 2009, quand les Chinois ont proposé de remplacer le dollar comme centre du système monétaire international par un nouvel instrument de réserve qui pourrait être développé techniquement à partir des droits de tirage spéciaux du FMI, immédiatement, Timothy Geithner, le secrétaire au Trésor américain, a dit non. Pas question de toucher à l'hégémonie des États-Unis en matière monétaire. Et cependant, les Américains sont quand même soumis à une forte pression, parce que les pays émergents pèsent aujourd'hui dans le monde, donc ils ont été obligés de faire une concession. Ils ont accepté une augmentation des quotas du FMI, et surtout une émission dans des proportions beaucoup plus importantes que ce qu'on avait connu jusqu'à présent, une nouvelle émission de droits de tirage spéciaux. Donc ils ont fait une concession. Et c'est évidemment qu'une façon de lâcher un peu de vapeur pour continuer à maintenir le système tel qu'il est. Donc il y a vraiment une pression qui s'exerce là, et s'il y avait effectivement une mesure clé dans ce domaine-là, qui soit déterminante, ça soit de réorganiser le pouvoir monétaire international en le retirant aux États-Unis et en le plaçant sous le contrôle des peuples, pour aller vite. Hein. Ça veut dire, par exemple, changer la répartition des droits de vote au FMI, et ça veut dire organiser l'émission d'une monnaie internationale, non pas au service des intérêts d'une puissance dominante, mais en regardant où faut-il investir pour développer l'éducation, la culture, la recherche, les infrastructures nécessaires au développement dans chaque pays. Ça, c'est quelque chose qui correspond, on sent de plus en plus que ça correspond à une nécessité, et en même temps, les tenants du pouvoir actuel s'y opposent avec la dernière énergie. Mais ce raisonnement-là, il peut se faire au niveau international, il peut se faire au niveau national. Imaginons ce que pourrait être une politique nationale qui essaierait de contribuer à notre niveau à combattre la crise. Imaginons ce que ça serait au niveau d'une région. Imaginons, c'est d'actualité, imaginons ce que c'est au niveau d'une entreprise.
Mais voyons ce que c'est au niveau européen avec le cas de la Grèce. On voit bien que ça ne marche pas au niveau grec, voilà. Au niveau européen, oui.
Et alors qu'on a fait un référendum quand même où on a dit non en France, hein, à l'indépendance de la BCE. Donc c'est une bataille très difficile.
Oui, Denis Durand, vous parlez donc d'imaginer des politiques. Imaginer des politiques, c'est une jolie expression. Ce sera d'ailleurs l'objet de la troisième partie de cette émission après un peu de musique. Sur le Petit Alter Radio, avec toujours pour thème les banques et la finance. Faisons le point après la crise. Alors nous venons de passer en revue globalement les diverses propositions institutionnelles pour répondre à la crise. Maintenant nous allons aborder les propositions de attaque. Attaque dont Christian Garnier va nous exposer un petit peu les orientations. Quelles deux, trois propositions de base ?
Oui, alors déjà, quand tu dis après la crise, bon, le problème c'est que la crise, on y est encore dedans, et malheureusement, ça va durer. Même du point de vue financier, il y a encore beaucoup d'actifs toxiques. Hein. Bon, le FMI considère qu'il y a encore 1500 milliards de dollars d'actifs toxiques répartis entre les banques de l'OCDE, hein. Et les besoins de financement des banques restent encore élevés. C'est pas parce que les banques aujourd'hui ont des bénéfices qu'ils ont pas besoin de financement. On estime à peu près à 670 milliards de dollars le besoin de financement des banques pour 2010. Donc on le voit de ce point de vue, la crise n'est pas finie. Du point de vue social, alors là, elle est loin d'être finie puisque malheureusement beaucoup de pays vont procéder à des ajustements. Mais là, ce n'est pas des ajustements monétaires, c'est des ajustements sociaux. On va encore licencier, des plans de licenciement, puisque la productivité a été mise à mal, puisqu'on n'a pas, entre guillemets, licencié autant que ce qu'aurait nécessité le recul économique du point de vue des lois du libéralisme. Malheureusement, il y a encore dans les tuyaux de nombreux millions de salariés qui vont être licenciés. Parfait. Voilà.
Alors après, c'est un constat.
Oui, c'est un constat. Nous sommes aujourd'hui, la crise est loin d'être terminée, et surtout, les remèdes des docteurs Diafoirus de l'Union européenne risquent de nous être d'être fatales aux malades, parce que on le voit, les mesures qui sont, quand vous voyez les Grecs, ils n'ont pas question qu'ils reçoivent une aide. On parlait de coordination tout à l'heure, on voit bien qu'elle n'a pas lieu, c'est interdit d'ailleurs dans la constitution ou le pseudo constitution européenne d'aider un État, et en plus on leur demande d'attaquer de manière drastique les revenus des salariés et des petites gens en Grèce et dans d'autres pays. Ça aura comme conséquence, ça va déprimer encore plus l'économie. Donc on est rentré dans un cercle qui est, déflationniste, de récession. Donc les mesures sont... Alors, rapidement maintenant, puisque les questions, c'était... l'analyse que nous faisons, c'est que les mesures prises par le G20 seront insuffisantes et surtout ne remettent pas en cause le fonctionnement de ce système. C'est-à-dire le principe que les marchés sont autorégulateurs et qu'il suffit d'avoir une meilleure gouvernance pour que les choses aillent mieux. Donc nous pensons effectivement qu'il faut changer de système, mais entre-temps, avant de changer le système au niveau mondial, c'est qu'il y a vraiment une perspective à relativement long terme, il faut aujourd'hui, j'allais dire, neutraliser la finance. Donc les mesures que nous prenons sont des mesures de neutralisation, c'est-à-dire d'enlever du pouvoir à cette finance qui en a de plus en plus. Alors comment ? Alors il y avait évidemment la taxe Tobin, enfin, les taxations sur les transactions, qui est mettre du sable dans le fonctionnement, mais pas que ça, c'est-à-dire intervenir sur, par exemple, l'interdiction des marchés sur des produits spéculatifs, interdire la titrisation, qui est aussi un moyen de se défausser pour les entreprises financières de leurs dettes et les refiler aux autres. Donc ça, c'est, on demande l'interdiction. Il faut cloisonner les activités des activités financières pour éviter que ça se propage de l'un à l'autre. C'est-à-dire, voilà, oui. Ça, c'est des éléments, mais ça, et ça veut dire...
Et je vais demander une petite précision. Cloisonner les activités, il s'agit de mettre une barrière, par exemple, entre les actifs toxiques immobiliers et l'assurance de crédit.
Tout à fait, etc. Qu'une banque n'est pas à la fois des activités de marché, des activités de dépôt, c'est-à-dire que, voilà, donc ça, ce qui avait été fait aux États-Unis, après la crise de 1929, et qui avait été, cette loi avait été annulée par le ministre de Clinton, hein, donc il faut quand même savoir ça. Donc suppression des marchés de produits dérivés de gré à gré, cloisonner ces activités financières, toutes des mesures, et demander à ce que les engagements des banques et tout sur les activités soient garantis par des fonds propres plus importants. Donc toute mesure qui vise à faire baisser l'intérêt des opérations spéculatives. Parce que ce qu'il y a, c'est que pourquoi ça, il y en aura toujours, parce que la finance fait de gros bénéfices. Elle pompe l'activité, hein, on le voit. Donc ce qu'il nous faut, c'est des mesures qui vont faire baisser cet intérêt, hein, ce profit qui récupère. Donc voilà un petit peu le sens des mesures d'attaque.
Bien, on parlait de crise du crédit. Je pense que, Denis Durand, vous aviez quelque chose à dire, je pense, sur le crédit.
Oui, ça fait partie d'ailleurs des propositions d'attaque, je crois, c'est-à-dire ce qu'attaque appelle une socialisation du crédit ou une maîtrise. Je pense que c'est un point absolument stratégique, parce que le développement des opérations spéculatives ne peut se faire que pour une raison, à savoir que les spéculateurs disposent de, en quelque sorte, la matière première de leurs opérations, le carburant de la spéculation, qui est le crédit. Hein, si les banques ne financent pas les spéculateurs deviennent tout petits et ils deviennent d'un seul coup beaucoup moins dangereux. Et ils ont beaucoup moins de pouvoir. Et une des graves causes de la situation où nous sommes aujourd'hui, c'est que précisément les banques, depuis 30 ans, ont passé leur temps à donner la priorité au financement de la spéculation contre le développement de l'économie réelle et de l'emploi. Et du coup, intervenir sur les décisions que prennent les banques est quelque chose d'absolument crucial. Et c'est crucial pour une deuxième raison, c'est que toutes les mesures qui ont été énoncées sont des bonnes mesures, elles visent à, en quelque sorte, réprimer les excès de la finance. Mais si on se contente seulement de réprimer les excès de la finance et qu'on réduit la sphère financière, et que par cette occasion, dans le même mouvement, on ne réoriente pas les financements vers autre chose, c'est-à-dire vers le développement de l'emploi, de la formation, de la croissance réelle, à ce moment-là, on risque de perpétuer la récession. Et donc, on a besoin de faire deux choses en même temps. Réprimer la finance et développer les projets, les investissements qui sont favorables à l'emploi, à la réduction des inégalités, à la création de richesses réelles qui tiennent compte de la préservation de l'environnement, qui est aussi un bien public qu'il faut défendre et enrichir. Donc, il faut faire les deux en même temps. Et je crois que là-dessus, il y a des moyens d'intervenir. On a parlé tout à l'heure de l'Europe. Je pense que si la politique monétaire européenne pouvait être une politique monétaire sélective, à savoir, si une banque veut financer des opérations spéculatives, on la matraque. On ne refinance ces opérations qu'à un taux dissuasif, 100, 150, 200%. En revanche, si la même banque décide de financer des projets qui sont développés par des PME dans des territoires, qui vont créer des emplois, qui vont contribuer à l'aménagement harmonieux du territoire, à ce moment-là, la Banque Centrale Européenne doit pouvoir les financer à 0%. C'est techniquement possible. Ça, c'est le niveau européen. Et on peut tenir le même raisonnement au niveau national, au niveau local, et on en parlait tout à l'heure au niveau mondial aussi. Il y a une espèce de logique, si vous voulez, dans une démarche d'ensemble, dans une convergence de lutte depuis le niveau local jusqu'au niveau mondial, pour s'opposer au pouvoir de la finance, et petit à petit, en appuyant là où ça fait mal à chaque niveau, commencer à changer les critères auxquels obéissent les décisions qui régissent l'économie.
Merci. Il y a aussi ce qu'on appelle les taxes sur les transactions, qui était une des propositions premières fondatrices de ATTAC. On en entend parler, elle revient sur le devant de la scène après quelques années, sous le nom de taxe Tobin, avec des arrangements. Est-ce que cette taxe Tobin dont on parle, est-ce que c'est juste une profession de bonne foi de la part des cercles dirigeants, ou bien est-ce qu'il y a une réalité, une réelle volonté de la mettre en œuvre, Denis Durand?
Je pense qu'il y a une volonté d'afficher une détermination à essayer de contrôler la spéculation, parce que même dans les milieux patronaux, la dictature de la finance est très impopulaire. Il voit bien qu'il y a des excès. Cela étant, la réflexion sur la taxe Tobin et tout ce qui l'entoure, James Tobin, quand il a proposé sa mesure à l'époque, il avait une idée assez précise en tête. Hein. Son but, c'était pas seulement de mettre quelques grains de sable dans les rouages de la finance, c'était pas non plus de lever, même si ça peut être utile, de lever des ressources fiscales au niveau mondial. C'était surtout de permettre à un pays de pouvoir mener sa propre politique de crédit sans être en permanence sous la pression des marchés. S'il y a moins de spéculation sur le marché d'échange, les pays vont pouvoir, par exemple, baisser les taux d'intérêt pour les investissements qui contribuent au développement du pays. Et là, je crois que ça va loin. Et depuis que James Tobin a fait sa proposition, il y a eu des travaux qui ont été menés sur d'un point de vue plus technique. Et personnellement, là je n'engage que moi, mais j'avais un peu travaillé sur la question dans les années 90, ce dont on s'est aperçu, c'est que ce qui pourrait être extrêmement efficace, c'est que dans l'esprit même de la taxe sur les transactions, il y aura une mesure qui sera encore plus puissante, qui consisterait à taxer vigoureusement les prêts des banques aux spéculateurs. Et si on fait ça, on frappe la spéculation à la racine. Ça a le même effet qu'une taxe sur les transactions, mais l'inconvénient des transactions, c'est qu'on peut les délocaliser, comme chacun sait. Tandis qu'un bilan de banque, on peut toujours le suivre à la trace. Même si la banque a mis son bilan dans un paradis fiscal, on peut le retrouver, le bilan. Et on peut lui dire, voilà, tu as 100 milliards de dollars qui servent à des spéculateurs, et bien sur ces 100 milliards de dollars, moi je vais te prélever, ou je vais te faire supporter des réserves obligatoires à un taux dissuasif. Et là, si on arrive à peser sur le comportement des banques, on va s'apercevoir qu'on peut dégonfler assez facilement la sphère spéculative. Mais non seulement ça, parce que si les banques arrêtent de faire ça, ça veut dire qu'elles vont avoir des ressources disponibles pour faire autre chose. Par exemple, développer les investissements qui sont favorables à l'emploi et à la préservation de l'environnement. Donc c'est extrêmement puissant.
Oui, c'est extrêmement puissant, mais il faut derrière ça une volonté réelle. Mais est-ce que, par exemple, quand on parle de la taxe Tobin publiquement, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque part cette volonté réelle d'aller mettre son nez dans le bilan des banques, ou bien est-ce que ça reste quelque chose de complètement impensable et de très éloigné de la pensée juste?
Ben, si je peux me permettre de dire une phrase, moi, là j'ai envie vraiment de m'adresser à TAC, aux militants, aux citoyens, parce que cette volonté-là, c'est vrai, il ne faut pas l'attendre d'un gouvernement Sarkozy, soyons clairs. Il ne faut même pas l'attendre d'un gouvernement Obama, parce qu'ils sont très faibles en réalité face à la puissance des marchés financiers. Nous avons tous ces conseillers viennent de chez Goldman Sachs ou de Wall Street. Donc, elle ne peut venir que des peuples, que des luttes. Et nous avons des luttes sociales. On a fait des manifestations au sommet du G7 il y a quelques années. Aujourd'hui, on se bat dans les entreprises, je suis syndicaliste, on se bat dans les entreprises pour imposer d'autres choix face au plan de suppression d'emplois. Dans les régions qui sont, après tout, on peut supposer qu'elles vont conserver des majorités de gauche dans 15 jours, il y a des instruments d'intervention économique qui pourraient servir à faire pression sur les banques. Si les régions arrêter de distribuer des aides de façon complètement aveugle aux entreprises sans savoir à quoi ça sert, et en réalité on sait que ça ne sert pas à développer l'emploi, si elles concentraient ces aides sur des opérations qui vont pouvoir déterminer si tel ou tel projet va être financé par les banques régionales ou pas, elles auraient un instrument non négligeable entre les mains. Et donc, mais ça, évidemment, cette volonté politique, il ne faut pas l'attendre des cercles dirigeants d'aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut l'attendre que des citoyens et des luttes qui sont capables de mener avec leurs objectifs, et aussi les organisations qui y contribuent.
Le message est passé, Denis Durand, merci beaucoup. Christian, peut-être quelques remarques avant de nous quitter.
On va faire quelques annonces pour la suite des prochaines semaines. Je vous rappelle que le petit Alter Radio, vous pouvez le retrouver sur Internet. Il vous suffit d'aller sur le site de Radio Grenouille et puis vous allez dans émissions régulières, vous tapez le petit Alter Radio, vous retrouvez toutes les émissions que nous avons enregistrées et vous retrouverez celle-là si vous voulez la réécouter par Internet. Je vous rappelle que la prochaine émission de Radio Grenouille se déroulera sur les retraites et nous analyserons ce problème qui est vaste. Et je crois, Benoît, que tu avais une information à donner aussi
le
site.
Si les auditeurs veulent creuser un petit peu la question de cette après-crise finance internationale, il y a un excellent interview de Frédéric Lordon par Daniel Mermet qu'on peut retrouver sur le site laba.org. Donc Frédéric Lordon qui décortique tous les mécanismes qui sont à l'œuvre depuis quelque temps dans la finance internationale. On se retrouve donc le mois prochain, deuxième samedi du mois, pour une nouvelle émission du Petit Alter Radio. Merci à tous.
Allez, bon mois, et puis à bientôt.